enchaîne avec Florian Uther. Florian Uther,
bonjour.
Vous intervenez d'ailleurs, vous avez un projet dans Châtel-Rodet, vous en parlerez peut-être, mais je vous laisse à vous.
Oui, alors bah, justement, bah, je vous remercie hein, pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là et de participer à cette table ronde et de voir, d'écouter des discours qui sont très différents, notamment du mien, hein, du milieu duquel je viens. Donc moi, en fait, pour retracer un peu mon parcours, parce que je pense que c'est important par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, j'ai le rêve d'enfant de devenir acteur de cinéma, en regardant Charlie Chaplin, tous les grands acteurs de l'époque. Donc je deviens, je me mets dans un conservatoire à Montréal, parce que je suis né au Canada, d'une mère française qui est issue de la région. Et donc je me suis mis dans ce conservatoire, j'ai fait mes 3 ans d'études, et j'ai ensuite déménagé à Londres pour poursuivre ma carrière d'acteur. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où je pense que le milieu du cinéma et le milieu du comédien, je pense que M. Génère n'est plus là pour le moment, mais il en parlait tout à l'heure, c'est un milieu qui est en plein changement. Et ce, depuis des dizaines d'années, je pense qu'on peut... Il y a plein de facteurs, hein, et je pense qu'être un jeune acteur aujourd'hui est beaucoup plus compliqué que ça l'était dans les années 60, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les rangs, c'est normal, on est beaucoup. Donc moi, j'ai poursuivi ma carrière d'acteur, j'ai joué au théâtre, j'ai joué au cinéma, et ensuite, donc, mon frère, lui, qui est cinéaste, m'a donné l'idée de travailler avec lui, en binôme. Donc je me suis dit que la production pouvait m'intéresser. Et je ne connaissais rien à la production de films, avant de me lancer dedans, mais bon, je connaissais très bien le cinéma, donc je connaissais bien le milieu. Et donc la production de films est un milieu très particulier du point de vue où c'est vraiment un lien entre l'entreprise, donc le businessman, et l'art. Après, bon, il y a beaucoup de cinéastes qui vont se plaindre des producteurs, notamment des gros producteurs hollywoodiens, de leurs pratiques, parce qu'ils ont des pratiques de businessman, de capitaliste, entre guillemets, et un cinéaste, lui, se voit comme une personne qui est rêveuse, qui vit dans un monde complètement à part, ce qui n'est pas faux. Donc en fait, aussi ce que je vais vous parler aussi un peu de l'histoire un peu hollywoodienne et de comment le cinéma est financé aux États-Unis, je pense que c'est aussi très important parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer en France. Donc le cinéma, on le sait, est énormément subventionné en France. Le CNC donne 650 millions d'euros par année au cinéma. C'est un montant astronomique, hein, je trouve ça énorme. Par contre, cet argent est très difficile à aller chercher. C'est-à-dire que le cinéma est aussi un milieu très, très cachetier. Il y a beaucoup, beaucoup de magouilles. Donc notamment, quand on regarde le cinéma hollywoodien des années 30, des années 20, Hollywood est en pleine explosion, hein, et on le connaît, il y a l'âge d'or hollywoodien qui dure bien des années 30, 40, s'estompe un peu dans les années 50, revient dans les années 60, et on a, pour moi, le vrai âge d'or hollywoodien, c'est les années 70, c'est là où les cinéastes avaient une carte blanche pour faire tout ce qu'ils voulaient. Alors le cinéma aux États-Unis à l'époque, ce qui est important c'est qu'il est financé, il a aucun financement de l'État. Je pense qu'il n'en a presque jamais eu. Ça a toujours été du mécénat. Donc soit du mécénat d'entreprises privées, ou même de gens très très fortunés. J'imagine les Rockefeller ont très certainement financé des films. On connaît aussi le milliardaire américain Howard Hughes, qui avait la compagnie aérienne TWA. Lui, il a même monté son propre studio parce que il voulait financer le cinéma, il a dirigé des films même. Donc il y a toute cette part de financement. Ensuite, il y a les banques américaines qui financent beaucoup de cinéma, les compagnies d'assurance. Et après, donc la petite anecdote que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai vu un documentaire sur Arte il y a quelques jours sur la montée en puissance du président Reagan, et donc qui était acteur de cinéma à Hollywood dans les années 30 et 40. Et donc, ce documentaire est intéressant parce qu'il retrace justement, il parlait justement du fait que les studios hollywoodiens ont toujours besoin d'argent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des structures immenses, très très riches, et elles le sont, mais le cinéma a toujours besoin, il est toujours en manque d'argent. Donc un producteur, lui, est toujours en recherche de fonds. Et donc dans ces, à la fin des années 30, donc au début, donc on a la crise économique des années 30, on a le début de la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma n'a plus vraiment de financement, c'est-à-dire que les, je pense que les entrepreneurs, les compagnies ne sont plus vraiment en lien de financer le cinéma. Donc on se retourne vers quoi? Vers la mafia italienne. La mafia new-yorkaise et la mafia de Chicago. Et ce qui est, c'est très intéressant parce que c'est un argent qui... je pense que la mafia à l'époque était toute puissante, c'est-à-dire que tous les cabarets aux États-Unis appartenaient à la mafia. Donc si on voulait programmer un chanteur, par exemple, fallait aller discuter avec un mafieux, que ce soit Al Capone à Chicago ou quelqu'un d'autre à New York. Et en même temps aussi, je pense que cette mafia avait tout intérêt de vouloir financer le cinéma. Donc d'un, c'est un milieu très glamour, c'était les stars... et surtout les stars de l'époque étaient mondialement connues, et d'une autre part, c'est très facile de blanchir de l'argent. Et je pense que ce qui permet ce blanchiment d'argent aux États-Unis notamment, c'est toute la dérégulation du système financier aux États-Unis. Et je pense que c'est une dérégulation qui n'existe pas, notamment ici. Après, en lisant beaucoup d'articles, il y a notamment... un producteur qui produit notamment que des films d'auteur. Il est portugais, mais il travaille à Paris. Il s'appelle Paulo Branco. Il a fait un film, je pense qu'un film très connu qu'il a fait récemment, c'est Cosmopolis de David Cronenberg, qui est un très très bon film. Et lui, il est dans un entretien que j'ai lu récemment, il dit je passe ma vie à chercher cet argent. Et des fois, j'ai pas assez pour financer, pour terminer mon tournage. Il va me rester, je vais avoir 60% de mon budget, le film va être entamé, tout le monde va être en train de travailler, mais moi je ne peux pas financer le reste du film. Donc il faut que je me débrouille, il faut que j'aille voir n'importe qui pour trouver cet argent. Et notamment, il y a même une autre anecdote, c'est David Lynch, qui est un cinéaste d'auteur aussi américain, et Alexandro Jodorowsky ont voulu très récemment produire un film. Alors, à savoir que ces deux cinéastes sont des cinéastes cultes, mais ne sont pas des cinéastes qui rentabilisent un investissement. C'est-à-dire que quand ils font un film, en général, au niveau du box-office, ça rapporte aucun argent. Donc c'est très risqué. Ça, c'est aussi à savoir que le cinéma est un milieu, est un business qui peut rapporter beaucoup d'argent, mais qui est très, très, très risqué. Donc ces deux cinéastes ont fait appel à un milliardaire russe qu'on ne connaît pas, on ne le connaît pas de nom. Et il avait annoncé la couleur, on peut dire. Il avait accepté de financer le film qui serait co-dirigé par ces deux dinosaures du cinéma américain. Et le projet ne s'est jamais fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le cinéma est bourré de choses comme ça. Où les studios, des fois, vont dépenser 100 millions d'euros dans un film qui ne sera jamais montré. Alors on peut s'imaginer les investisseurs derrière qui sont pas toujours très contents. Donc moi j'ai essayé d'exister un peu dans ce milieu qui en plus est en plein changement, c'est-à-dire qui est en pleine évolution. Faut savoir aussi que le cinéma est un art très jeune, hein, ça a un peu plus de 100 ans, mais c'est intéressant parce que ce que j'aime bien c'est le nom de l'Académie des Oscars aux États-Unis, en fait, c'est l'Académie des arts et des sciences du cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai que le cinéma, à l'époque, est un peu une science. Monter un film, le montage d'un film, faut être un peu un scientifique. C'est-à-dire qu'on est dans un laboratoire et on travaille avec des négatifs. C'est tout un savoir-faire, c'est tout un artisanat, en fait, qui a énormément changé. C'est-à-dire qu'on ne monte plus des films, on ne les découpe plus au ciseau, on n'est plus à découper des négatifs et à les coller ensemble. Maintenant, on a un ordinateur qui fait tout le travail, donc ça simplifie énormément de choses. Et notamment, je pense qu'exister aujourd'hui en tant que producteur, donc moi je suis un producteur indépendant, alors je pense qu'il y a différents stades de production indépendante, parce qu'on a les grosses productions donc hollywoodiennes, ensuite on a les grosses productions indépendantes hollywoodiennes, ensuite on a un cinéma plus indépendant qui est financé par... plusieurs structures qui vont être peut-être un peu l'État, peut-être un peu, on va peut-être réussir à avoir un prêt ici, on va faire un Kickstarter là. Et ensuite, il y a le cinéma, je pense, ultra indépendant, c'est-à-dire que c'est juste des jeunes qui veulent qui rêvent de faire du cinéma et par tous les moyens possibles décident de faire du cinéma. Un bon exemple de ça, c'est les frères Cohen. Les frères Cohen qui aujourd'hui sont des cinéastes un peu hors normes. Leur premier film, qui s'appelle en français 100%, a été entièrement financé un peu avec du crowdfunding, mais un crowdfunding de l'époque dans les années 80, c'est-à-dire qu'ils avaient écrit un scénario et ils vivaient à Minneapolis. Et les deux frères se sont dit, ben, on va, la seule façon de financer cet argent, parce qu'on connaît, ils n'avaient aucune relation dans le cinéma, c'est d'aller cogner aux portes. Et ils ont littéralement appelé tous les médecins, les avocats, tous les entrepreneurs de Minneapolis. Et au lieu de leur dire, bah, écoutez, on cherche de l'argent, parce que quand on dit ça à quelqu'un, en général, c'est ce qu'il disait dans l'article, si tu dis, eh ben, moi je cherche de l'argent, la personne va toujours tout de suite te dire, ah, ben, non, moi je finance rien. Par contre, si tu lui dis, écoute, j'ai tourné un extrait de 2 minutes, j'ai envie de te le montrer, on va toujours tout de suite t'inviter pour montrer l'extrait de ce film, soit dans une soirée, dans un salon. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant un an. Ils ont quand même récolté 750 000 dollars pour leur premier long métrage. Alors après, donc le gros challenge, donc par exemple sur ce film, c'était la distribution du film. C'est distribuer un film, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on peut tourner un film, on peut avoir un long métrage, même avec un acteur connu, et on peut avoir de la difficulté à trouver une distribution. Et la distribution, c'est vraiment réellement ce qui va mettre le film sur la carte, c'est-à-dire ce qu'il va faire, qui va jouer à Châtellerault, qui va être distribué dans 1000 salles en France, 3000 salles aux États-Unis, ou alors pas du tout, ou une salle à New York, ça peut arriver aussi. Donc je pense, et donc on est aussi on est à un moment de l'histoire du cinéma où je pense qu'il n'y a jamais eu autant de films de produits et de réalisés chaque année. Je pense qu'il y en a au moins 100 000. À savoir que je pense que le festival de Sundance et Cannes aussi, je pense que Cannes reçoit 4000 longs métrages par année. Énorme, parce qu'un long métrage nécessite énormément de moyens à produire, hein, même sans moyens. C'est-à-dire qu'avec mon frère, on a produit son premier long métrage et on s'était dit qu'on allait le faire vraiment nous-mêmes. Donc on a tout financé, on est allé récolter un peu d'argent à gauche à droite. On a vraiment tout fait nous-mêmes avec peu de moyens. Et le film est fait. Bon, ensuite, maintenant, le challenge, c'est de trouver une distribution. Comme on n'a pas encore un nom ou des choses comme ça. Moi, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, donc l'idée de venir, ce qui est intéressant pour moi d'être ici, c'est qu'avec mon frère, on a un projet de court-métrage actuel qu'on produit, et c'est ce qui m'a amené à rencontrer M. Donneuil. Et du coup, donc, l'idée, c'est de trouver un peu, de tisser des liens dans la région, parce que je me dis qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut produire un film, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des gens qui aiment le cinéma. Je me suis dit que de venir dans la région de maman, entre guillemets, hein, c'était une bonne chose pour rencontrer des gens, pour voir les choses qui s'y font, voir les différents acteurs et de voir si c'est possible de produire un film ici. Et donc ce film, nous, bon, l'idée c'est de tourner ce film vraiment avec des acteurs locaux, une équipe locale. Bien sûr, mon frère et moi, on descendra de Paris. L'idée c'est vraiment de tout faire dans la région. De construire les décors, si on a besoin de construire des décors, ainsi de suite. Et je pense que c'est ce qui est très important aussi pour moi, de tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est... Enfin, j'ai l'impression aussi, avec l'arrivée d'un président comme Donald Trump aux États-Unis, on parle énormément de problèmes de tout ce qu'il y a au milieu des États-Unis, c'est-à-dire qu'on a on a l'Est des États-Unis, on a les grandes villes comme New York, ensuite on a la Californie, et c'est un peu ce qu'on a critiqué de Obama et des Clinton, c'est que pour beaucoup de gens, ils représentent une élite intellectuelle qui vit dans ces villes et qui est loin de tout et qui survole, on appelle ça « flyover states », c'est des régions qui sont survolées où on ne s'arrête jamais, mais en fait ces régions sont très riches, elles sont riches culturellement, elles sont riches en savoir-faire, et je pense que c'est important d'y venir et de voir ce qu'on peut y faire. Et je vois, on fait un peu la même chose ici avec la ligne de TGV qui fait Paris-Bordeaux. Je pense que c'est un peu cette idée de tisser un lien entre Paris et Bordeaux, mais pas entre tout ce qu'il y a au travers, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de choses à y faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Peut-être rajouter le cadre. Vous avez déjà une idée de cadre pour la commune, je crois.
Oui, alors oui, pour un peu vous en dire un peu plus sur le court métrage. Donc ce court métrage, si vous connaissez le petit village d'Uchaud à côté, il y a un café qui s'appelle Chez Goubeau. Et donc le Monsieur Goubeau est toujours là. Hein, c'est toujours lui qui tient le café, je pense depuis bien les années 70. Et donc l'idée que mon frère a eue, c'est de, il s'est inspiré d'un film suédois qui de Roy Anderson, qui s'appelle. C'est une histoire d'amour entre deux adolescents. Et donc l'idée, c'était un peu de revivre toutes les histoires de notre grand-père, en fait, qu'il a vécu dans ce village, tous ses amours de jeunesse, hein, qui sont souvent, à l'époque, étaient, malheureusement qu'ils ne le sont plus, mais qui étaient à l'époque dans le café de village, autour du baby-foot, avec Jeannie Cobard, qui boit son Ricard. Et donc l'idée, on a écrit ce petit court-métrage pour commémorer à la fois le café de chez Goubeau. Hein, peu de gens s'arrêtent, je pense que j'ai même entendu dire qu'il va s'arrêter cette année. Donc nous, on veut tourner ce film avant qu'il s'arrête et de faire revivre un peu ce passé des campagnes en France qui disparaît très vite, et notamment avec l'avènement de la technologie et tout ça. Je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère qui n'est pas forcément... c'est pas négatif, hein, mais je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont en sortir, mais ce qu'il faut faire très attention aussi... De savoir d'où on vient.
Merci pour cette précision.